Il m'intéresserait ensuite de savoir de vous, frère Guillaume. De quel feuillet vous parliez ce matin avec Séverin, lorsque le scélérier vous entendit et commit son erreur ?
Guillaume soutint son regard.
Il commit une erreur, justement. Nous parlions d'un exemplaire du traité sur l'hydrophobie canine de Ayoub al-Rouaoui, livre admirable de doctrine que certainement vous connaissez de renommée et qui vous aura souvent été de grande utilité. L'hydrophobie, dit Ayoub, se reconnaît d'après 25 signes évidents.
Bernard, qui appartenait à l'ordre des Dominicains, ne jugea pas opportun d'affronter une nouvelle bataille.
« Il s'agissait donc de choses étrangères au cas en question, » dit-il rapidement,
et il poursuivit l'instruction.
« Revenons à toi, frère Remigio Minorite, bien plus dangereux qu'un chien hydrophobe. Si frère Guillaume avait ces jours-ci prêté plus d'attention à la bave des hérétiques qu'à celle des chiens, peut-être aurait-il découvert lui aussi quel serpent nichait dans l'abbaye. Revenons à ces lettres. À présent, nous savons sans l'ombre d'un doute qu'elles furent entre tes mains, et que tu pris soin de les cacher comme un poison mortel, et que tu es allé jusqu'à tuer, » il arrêta d'un geste une tentative de déni, « et du meurtre, nous parlerons ensuite, jusqu'à tuer, disais-je, pour qu'elles ne vinssent jamais en ma possession. Alors, tu reconnais ces feuillets comme t'appartenant ?»
Le scélérier ne répondit pas, mais son silence était suffisamment éloquent. Raison pourquoi Bernard poursuivit,
« Et que sont ces parchemins ?» Deux pages rédigées de la main même de l'hérésiarque Dolcino, peu de jours avant d'être pris, et qu'il confiait à l'un de ses acolytes pour qu'il les portât à d'autres de ses sectateurs, encore éparpillés à travers l'Italie. Je pourrais vous lire tout ce qu'elle renferme, et comment Dolcino, redoutant sa fin imminente, confie un message d'espérance à ses frères, dit-il, en Satan. Il les console en annonçant que, si les dates prévues ici ne concordent pas avec celles de ses lettres précédentes, où il avait promis pour l'année 1305 la destruction complète de tous les prêtres par les soins de l'empereur Frédéric, cette destruction ne serait toutefois pas éloignée. Une fois de plus, l'hérésiarque mentait, car plus de 20 années ont passé depuis ce jour et aucune de ses prédictions néfastes ne s'est réalisée. Cependant, ce n'est pas sur la risible présomption de ces prophéties que nous devons discuter, mais bien sur le fait que Remigio en était le porteur. Peux-tu encore nier, frère hérétique et impénitent, que tu as eu commerce et contubernalité avec la secte des pseudo-apôtres ?
Le scélérier ne pouvait plus nier désormais.
« Seigneur, dit-il, ma jeunesse a été peuplée d'erreurs très funestes. Quand j'eus vent de la prédication de Dolcino, déjà séduit comme je l'étais par les erreurs des frères des pauvres vies, je crus en ses paroles et je m'unis à sa bande.
Oui, c'est vrai. Je fus avec eux dans les régions de Brescia, de Bergame. Je fus avec eux à Côme et en Valsesia. Avec eux, je me réfugiais à la paroi chauve et en Val de Rassa, et enfin sur le mont Rebello. Mais je ne pris part à aucun méfait. Et quand ils commirent saccage et violence, je portais encore en moi l'esprit de mansuétude qui fut le propre des fils de François, et précisément sur le mont Rebello, je dis à Dolcino que je n'avais plus le cœur à participer à leur lutte. Et il me donna la permission de m'en aller, car, dit-il, il ne voulait pas de femmelette avec lui, et il me demanda de lui porter ses lettres à Bologne.
« À qui ?» questionna le cardinal Bertrand.
« À certains de ses sectateurs, dont il me semble me rappeler le nom, et comme je me le rappelle, je vous le dis, Seigneur. »
se hâta d'assurer Remigio. Et il prononça certains noms que le cardinal Bertrand devait connaître parce qu'il sourit d'un air satisfait en faisant un signe d'entente à Bernard.
« Fort bien !» dit Bernard.
Et il prit note de ces noms. Puis il demanda à Remigio
« Et comment se fait-il qu'à présent tu nous livres tes amis ?»«
Ce ne sont pas mes amis, Seigneur. Preuve en soit que les lettres, je ne les remis jamais. » Mieux, je fis davantage, et je le dis maintenant après avoir tenté de l'oublier pendant tant d'années, afin de pouvoir quitter ces lieux sans être pris par l'armée de l'évêque de Versailles, qui nous attendait dans la plaine, je parvins à me mettre en contact avec certains d'entre les assiégeants. Et en échange d'un sauf-conduit, je leur indiquai les bons passages pour aller prendre d'assaut les fortifications de Dolcino. En raison de quoi, partie du succès des forces de l'Église fut due à ma collaboration.
Très intéressant. Ce qui nous apprend que non seulement tu fus hérétique, mais aussi que tu fus vil et traître. Ta situation n'en est pas pour autant changée.
Comme aujourd'hui pour te sauver, tu as tenté d'accuser Malaki qui pourtant t'avait rendu un service. Ainsi naguère, pour te sauver, tu remis tes compagnons de péché dans les mains de la justice. Mais tu as trahi leur corps, tu n'as pas trahi leur enseignement. Et tu as conservé ces lettres comme des reliques, et espérant un jour avoir le courage et la possibilité, sans courir de risque, de les remettre, pour que de nouveau t'accueillent avec ferveur les pseudo-apôtres. « Non, Seigneur, non !» disait le salarié, couvert de sueur, les mains tremblantes. « Non, je vous jure que... »« Un serment !» dit Bernard. « Voilà une autre preuve de ta malice !» Tu veux jurer, car tu sais que je sais que les hérétiques vaudois sont prêts à n'importe quelle ruse, et même à la mort plutôt que de jurer. Et s'ils sont poussés par la peur, ils feignent de jurer et marmonnent de faux serments. Mais moi, je le sais bien que tu n'es pas de la secte des pauvres de Lyon, maudit renard, et que tu cherches à me convaincre que tu n'es pas ce que tu es, afin que je ne dise pas que tu es ce que tu es. Tu jures alors, jure pour être absous, mais sache qu'un seul serment ne me suffit pas. Je peux en exiger 1, 2, 3, 100, tant que j'en voudrais. Je sais pertinemment que vous, les pseudo-apôtres, vous accordez des dispenses à qui jure le faux pour ne point trahir la secte, et ainsi, tout serment sera une nouvelle preuve de ta culpabilité. Mais alors, que dois-je faire ? Hurla le scélérier en tombant à genoux. Ne te prosterne pas comme un béguin ! Tu ne dois rien faire. Moi seul, désormais, sais ce qu'il faudra faire, dit Bernard avec un sourire effrayant. Toi, tu n'as qu'à avouer. Et tu seras damné et condamné si tu n'avoues pas, parce que tu seras puni comme parjure. Alors avoue, au moins pour abréger ce fort douloureux interrogatoire qui trouble nos consciences et notre sens de l'indulgence et de la compassion. Mais que dois-je avouer ? Deux ordres de péché. Que tu as été de la secte de Dolcino, que tu en as partagé les propositions hérétiques et les coutumes et les offenses à la dignité des évêques et des magistrats citadins, qu'impénitent tu continues à en partager les mensonges et les illusions, fût-ce après la mort de l'hérésiarque et la dispersion de sa secte, même si elle n'est pas tout à fait vaincue et détruite. Et que, corrompu au plus profond de ton âme par les pratiques que tu as apprises dans la secte immonde, tu es coupable des désordres contre Dieu et les hommes perpétrés dans cette abbaye, pour des raisons qui encore m'échappent, mais qui n'auront pas même besoin d'être complètement éclaircies une fois qu'il sera lumineusement démontré, comme nous sommes en train de le faire, que l'hérésie de ceux qui prêchèrent et prêchent la pauvreté contre les enseignements du Seigneur Pape et de ses bulles ne peut que conduire à des agissements criminels. C'est ce que devront apprendre les fidèles, et cela me suffira. À vous !
Ce que Bernard voulait fut alors évident. Nullement intéressé à savoir qui avait tué les autres moines, il voulait uniquement démontrer que Remigio partageait d'une certaine façon les idées soutenues par les théologiens de l'empereur. Et après avoir montré le lien entre ces idées, qui étaient aussi celles du chapitre de Pérouse et celles des Fraticelles et des Dolciniens, et avoir montré qu'un seul homme dans cette abbaye participait de toutes ces hérésies et avait été l'auteur de nombreux crimes, de cette manière, il porterait un coup vraiment mortel contre ses adversaires. Je regardai Guillaume et je compris qu'il avait compris, mais ne pouvait rien y faire, même s'il l'avait prévu. Je regardai l'abbé et je lui vis un air sombre. Il se rendait compte trop tard d'avoir été lui aussi attiré dans un piège et que son autorité même de médiateur se délitait. À présent, qu'il allait apparaître comme le seigneur d'un lieu où toutes les infamies du siècle s'étaient donné rendez-vous.